Rencontre spirituelle, aujourd'hui, en ce 30 avril, c'est la fête de Saint Pie V, un pape qui est mort en 1572, qui a été très important dans l'histoire de l'Église, mais c'est aussi la fête de Marie de l'Incarnation, la bienheureuse Marie de l'Incarnation, une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église, vraiment, oui. En tous les cas, certainement une des grandes mystiques, comparable, dit-on, à Thérèse d'Avila, ce qui n'est pas peu dire, parce que Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, a été la plus grande mystique, dit-on, de l'histoire de l'Église. C'est aussi la fête aujourd'hui de Saint-Joseph-Benoît Cotolengo, dont j'aimerais tellement vous parler, un prêtre qui a vécu à Turin, qui est mort en 1842. Et c'est aussi la fête de Saint-Robert de Molem, celui qui a fondé l'abbaye de Citeaux et qui était la source des Cisterciens, qui est mort en l'an 1110, 20 ans, je crois, après avoir réformé, en somme, le grand ordre bénédictin en établissant finalement les Cisterciens, qui illustreront quelques années plus tard Saint-Bernard. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Marie de l'Incarnation m'a toujours fasciné depuis ma jeunesse, ma tendre jeunesse, alors que le beau-père de mon frère aîné, M. Gigi Joubert, m'avait laissé, quand il est mort en 1944, m'avait laissé le témoignage de Marie de l'Incarnation, établi par Don Jamais, car c'était sa lecture préférée avant de mourir, Monsieur Joubert, oui, de la laiterie Joubert. Et Marie de l'Incarnation, que j'ai commencé à lire à ce moment-là, que j'ai repris il y a 20 ans, m'a amené en 1963, il y a déjà, mon Dieu, 33 ans, que le temps passe vite, à faire un film sur Marie de l'Incarnation. J'avais choisi les textes, on avait fait la recherche, que c'était fascinant. Pourquoi est-ce si fascinant, Marie de l'Incarnation? C'est d'abord une femme qui est née, d'accord, en France, qui a vécu à Tours, mais qui a surtout vécu à Québec, et qui est peut-être l'un des plus grands écrivains du Québec, car son style est magnifique. Elle a écrit des choses superbes. Donc, avant de commencer de parler de Marie de l'Incarnation, j'aimerais vous lire un tout petit texte qu'on retrouve justement dans le témoignage de Marie de l'Incarnation, cet ouvrage, à mon sens, absolument fascinant, qui nous donne une idée de l'œuvre complète de Marie de l'Incarnation. Voici ce texte, intitulé « Dieu est amour ». On vous appelle feu. Non, mon amour, vous n'êtes pas feu. Vous n'êtes pas eau. Vous n'êtes rien de ce que nous disons. Vous êtes ce que vous êtes en votre éternité glorieuse. Vous êtes, oui, vous êtes. C'est là votre essence et votre nom. Vous êtes vie, vie divine, vie vivante, vie unissante. Vous êtes toute béatitude. Vous êtes unité suradorable, ineffable, incompréhensible. En un mot, vous êtes amour et mon amour. Que dirais-je donc de vous? Vous m'avez faite pour vous qui êtes amour. Mais hélas, que dirais-je? Je n'en puis parler sur la terre. Alors c'est de la haute mystique. De la part d'une femme qui a une vue bien concrète, très concrète, oui, c'est absolument extraordinaire. Hein? Lors des célébrations de sa béatification, elle a été béatifiée en même temps que Monseigneur de Laval et Catherine Caquita, mais lors des célébrations, au lendemain de la béatification, le cardinal Maurice Roy rappelait que l'Église canadienne était vraiment favorisée de Dieu. Elle était encore à ses débuts, et déjà, elle pouvait compter en ses rangs de grands saints tels que le bienheureux François de Laval, dont je vous parlerai bientôt, les saints martyrs jésuites, dont je vous ai déjà parlé une heure durant. J'en ai beaucoup aimé les grands Saint martyr canadien, comme on dit. Sainte Marguerite Bourgeois aussi, j'ai fait une émission complète au début de janvier. Et plusieurs autres, dont la bienheureuse Marie de l'Incarnation, celle qu'on a appelée la mère de la Nouvelle-France. Hein? Oui, c'est elle, la mère de la Nouvelle-France, qui occupe une place si importante dans toute la galerie des fondateurs de notre Église canadienne ou québécoise, qu'on parvient difficilement à évoquer vraiment sa silhouette très caractéristique en l'espace d'une heure. C'est à peu près impossible. Il faut des pages pour évoquer ne serait-ce que les événements de sa vie. Hein? Mais comment rappeler l'évolution intérieure de cette mystique qu'on a comparée, comme je vous ai dit, à Sainte Thérèse d'Avila en la surnommant Thérèse du Nouveau Monde. Marie Guyard est née à Tours, c'était son nom, Marie Guyard, G-U-Y-A-R-T. Il y a une rue Marie Guyard, ou une rue Guyard près de l'Université de Montréal. Elle est née à Tours le 28 octobre 1599. Elle était la fille de Florent Guyard, qui était un maître de la corporation des boulangers. C'était aussi un commerçant en soierie. Et donc, il brassait d'assez grosses affaires. Elle n'avait encore que 7 ans. Lorsqu'elle prétend avoir vu Jésus en songe, Jésus l'invitait à être tout à lui. Et elle répond, un peu comme Thérèse l'Enfant Jésus et tant d'autres, par un oui, de grand cœur. C'est une fille joyeuse. C'est une fille assez enjouée par tempérament. Et on s'est aperçu de plus que son cœur était merveilleux. Elle était née pour la charité, comme on a écrit. La charité envers les malades et les démunis. D'ailleurs, elle a reçu au foyer, à l'école, une éducation chrétienne qui était pleine de chaleur et de charité. Oui, elle l'a reçue à l'école, cette éducation chrétienne, comme au foyer. Et ce serait bien dommage s'il n'y avait plus d'école chrétienne chez nous. D'école où on forme vraiment le cœur des enfants à aimer Jésus, à aimer le recevoir dans l'Eucharistie, à aimer se former une conscience éclairée en recevant le sacrement de la réconciliation, de la pénitence, en participant à des œuvres de charité, à l'exemple des saints, des écoles où on enseigne vraiment à aimer l'Église pour ce qu'elle est vraiment, à en aimer tout ce qu'elle a de beau à offrir à des cœurs d'enfants. Comme ce serait regrettable. Marie Guyard avait sous les yeux l'exemple d'une famille qui, comme elle l'écrit dans son autobiographie en 1654, une famille qui, au milieu de son trafic, trafic dans le sens où il y avait beaucoup de va-et-vient, mais cette famille savait trouver les moments pour prier. Et aussi pour échanger, il n'y avait pas la télévision pour les empêcher de parler. Je me souviens de mon enfance où on parlait tellement à la maison. Je rappelle, je suis né en 1926, donc j'ai vu l'apparition de la radio. Je me souviens quand le premier appareil est arrivé chez moi. Et on se rassemblait autour de ce haut-parleur très particulier. Je me souviens de l'appareil, il était très étrange. Puis on écoutait certaines choses, on écoutait de la musique qui venait d'un hôtel de Montréal, l'hôtel Mont-Royal. La musique de danse, on trouvait ça curieux. Puis on s'est mis à écouter évidemment la Bolduc, et puis toutes sortes de chanteurs. On entendait beaucoup de choses américaines aussi. Et mon père écoutait des combats de boxe, ce qui nous effrayait un peu. Mais c'était un peu différent déjà dans la maison. Mais il y avait quand même de belles chansons en français. Et je me souviens qu'on chantait dans la maison avec Ray Ventura et ses collégiens. des tas de chansons qu'avait composées un juif converti au catholicisme que j'avais déjà interviewé à Rencontre à la télévision. Un homme admirable. Et elle savait trouver donc le moment de prier, d'échanger dans sa maison à elle. Comme dans mon enfance, et Marie était attirée vers la vie religieuse. Mais en voilà une autre qui est attirée vers la vie religieuse, mais qui ne pourra pas, au moment de sa jeunesse. Car elle suit les conseils de ses parents, elle a 17 ans. À 17 ans, on lui fait épouser Claude Martin, qui est un bon chrétien, même un excellent chrétien. C'est un négociant en soierie, comme son père, qui était commerçant en soierie. Alors, c'est comme ça qu'il s'était sans doute connu. Et Marie Guyard a donc eu à diriger une maisonnée de nombreux domestiques. Elle se montrait attentive à chacun. Et puis, elle les réunissait pour la prière. Puis à l'occasion, elle les instruisait sur les devoirs qu'ils avaient à faire comme hommes religieux, hommes de foi catholique. Parce que souvent, ces ouvriers, ces gens très simples, qui ne savaient ni lire ni écrire, n'étaient jamais allés à l'école, n'avaient reçu aucune formation, et souvent dans des foyers où on avait à peine transmis la foi. C'est pas facile pour des parents de transmettre la foi. Certains sont incapables d'expliquer ça, de l'enseigner à leurs enfants. Et alors, le 2 février 1619, elle est toute jeune, elle n'a même pas 20 ans. Elle met au monde un fils, son seul fils, qui sera appelé Claude comme son père, le fameux Claude Martin. Très illustre, qui deviendra très illustre. Je vous expliquerai. Bon, disons-le tout de suite, vous voulez le savoir. Eh bien, après avoir été un peu délinquant, ce jeune homme est entré chez les bénédictins et est devenu l'un des abbés bénédictins les plus renommés de la congrégation de Saint-Maur, congrégation qui à l'époque était la congrégation qui a mérité aux bénédictins le titre de grand savant. Quand on dit c'est un travail de bénédictin, ça veut dire que c'est un travail fouillé. Et c'est de là que ça vient. Et donc Claude Martin, abbé bénédictin, a laissé des œuvres remarquable que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai lu avec assez d'intérêt. Ce sont des conférences ascétiques, c'est 2 gros volumes, au total presque 1200 pages, et ce sont des conférences qu'il avait adressées à ses confrères abbés bénédictins. Donc, elle met au monde Claude Martin. Des événements douloureux ont mis fin à son bonheur. Un bonheur n'a pas duré longtemps, car son mari, Claude, tombe malade et meurt rapidement. Elle a 20 ans. Son fils a 6 mois. Une jeune veuve qui doit faire face à une succession extrêmement difficile à régler. Elle a écrit dans son autobiographie, magnifiquement faite, hein, c'est étonnant, « Mon esprit était dépourvu d'expérience humaine. » Mais l'Esprit de Dieu me faisait venir à bout de tout ce que j'entreprenais. Donc le 24 mars 1620, Madame Martin a une vision. Elle est plongée, curieusement, elle l'a raconté, je pourrais vous lire le texte, c'est un peu long. Elle est comme plongée dans le précieux sang de Jésus, c'est-à-dire dans l'âme de Jésus. C'est une vision mystique étrange. Et elle va regarder cette date du 24 mars 1620 comme celle de sa conversion. Ce fut le départ d'une vie nouvelle au point de vue spirituel pour elle. Et Madame Martin, si jeune, fait une confession générale de toute sa vie. Et elle vient ensuite résider chez son père, comme si elle faisait une espèce de retraite. Elle y fait donc des travaux de broderie. Elle consacre de longues heures à la prière et à des lectures de vie de saint. Elle se réserve un temps pour la visite des malades et des pauvres. Elle fait donc une retraite d'un an. Et sa sœur, qui s'appelle Paul Guyard Buisson, elle a épousé M. Buisson, l'invite à lui venir en aide dans ses entreprises commerciales. En fait, comme elle le dit dans un de ses écrits, elle va remplir là les offices de servante dans la maison de sa sœur, les Buissons. Le soir, Marie Guyard retourne chez son père. Quoiqu'elle est exténuée, elle est vraiment fatiguée par tout ce travail, elle consacre encore des heures à la prière. Elle écrit à ce sujet, « Je faisais d'ailleurs oraison partout, même occupée à faire les chambres, car je parlais à notre Seigneur tant que je voulais. » Alors c'est à cette époque que le Seigneur est venu la visiter alors qu'elle était en oraison et qu'il lui dit, « C'est très beau ce qu'elle entend de la bouche de Jésus. L'amour est mon nom. C'est ainsi désormais que je veux que tu m'appelles. » Alors de plus en plus, notre jeune Madame Martin, Marie Guyard, Marie de l'Incarnation, se sent attirée vers Dieu. Elle songe de plus en plus à se consacrer à lui dans la vie religieuse, mais il faut assurer l'avenir puis l'éducation de son fils Claude. Alors, est-ce qu'elle ne devrait pas se remarier, se pose la question. Où se trouve la volonté de Dieu? Quoi faire? Comme je la comprends. Combien on peut avoir le goût, quand on a un grand-fils qu'on a adopté, d'entrer dans un monastère, mais on ne peut pas. On a des responsabilités. Alors la lumière se fait en Marie de l'Incarnation, c'est-à-dire en Madame Martin, grâce au conseil de son directeur spirituel. Et aussi, sous la pression des invitations qu'elle entend au fond de son cœur, qu'elle reçoit constamment de la part de Dieu. Elle fait alors le vœu de la chasteté perpétuelle. Ça peut vous étonner, mais vous savez qu'il y a des gens qui font des vœux de chasteté temporaire, et on les voit à la télévision, je vous en ai parlé. Ces jeunes gens magnifiques, de 20, 22, 23 ans, qu'on voit à la télévision aux nouvelles de Radio-Canada, et qui se sont promis d'être chastes jusqu'à leur mariage, afin d'apprendre à se connaître intelligemment. Afin de préparer vraiment leur mariage dans la prière, la réception des sacrements, la lecture, à jouer de la musique ensemble, piano, flûte à bec, assister à des choses, des études, des conférences, des cours, à poursuivre leur existence de façon normale jusqu'au mariage. Alors Marie Guyard, Marie Martin, venue Madame Martin, pressent que bientôt, elle devra quitter son fils, à la veille de ses 12 ans. Dilemme, angoisse. Mais un garçon déjà de 12 ans, c'est pas comme aujourd'hui. On voit des enfants de 12 ans qui se marient à cette époque. Des filles surtout, des garçons 14 ans, 15 ans. Catherine de Sienne, à 12 ans, a failli se marier. Alors, c'est tout autre chose. Je vous rappelle, moi, ma grand-mère paternelle s'est mariée à 16 ans. Ces gens-là avaient des enfants à 16 ans. Ils en avaient même à 15 ans. Alors, Madame Martin prépare donc son fils Claude à cette éventualité. Elle lui donne une éducation assez austère pour le fortifier, pour fortifier son cœur, pour le faire mûrir. Mais elle doit se faire violence, puis elle doit refouler toute la tendresse maternelle qui habite son cœur. D'ailleurs, elle va écrire plus tard à son fils Claude, c'est très beau cette lettre, « En me séparant de vous, je me suis fait mourir toute vive. » En attendant cette séparation que Madame Martin entrevoit comme plus ou moins prochaine, elle est absorbée par son travail à la maison Buisson, la maison de sa sœur. Il faut tenir les comptes, Il faut servir de secrétaire. Il faut aussi traiter avec les commerçants. Il faut gérer les affaires. Elle écrit, « Je passais les jours entiers dans une écurie qui servait de magasin. Et parfois, à minuit, j'étais encore sur le port. » Oui, le port. « À faire charger ou décharger des marchandises. » Alors, vous vous imaginez tout ce qu'elle entendait de la part de ses charretiers et de ses gens, des débardeurs et tout ça, et des employés. Elle dit bien, « Ma compagnie était celle des crocheteurs, des charretiers et même de 50 à 60 chevaux dont il fallait que je prenne soin. Ce fut mon noviciat pour le Canada. » C'est très intéressant de lire ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Toute jeune femme et administratrice d'un immense commerce. Car Tours était une plaque tournante et on recevait à Tours quantité de marchandises qu'il fallait réexpédier à Paris ou ailleurs. Elle exerce un tel ascendant d'ailleurs sur les domestiques puis les employés qu'elle obtient de ces hommes, souvent très durs, qu'ils se rapprochent de plus en plus de Dieu. Et beaucoup d'entre eux finissent par accomplir leurs devoirs religieux qu'on considérait comme très graves à l'époque. On a oublié ça. C'est-à-dire de se confesser une fois par année, de communier au moins une fois par année, faire ses Pâques, quoi, comme on disait. Qui pense à ça aujourd'hui? Et c'est au moment où elle semble entièrement absorbée par son travail de gérance, que Jésus survient à l'improviste. Il la plonge dans des ravissements extraordinaires. Il lui dit, « Je t'épouserai dans la foi. Je t'épouserai à jamais. » Ce sont des élans mystiques étranges. Mais chez elle, qui ne la font pas déroger d'un équilibre profond, d'un grand sens commun, d'une vie absolument admirable en tout point, à mon avis. Jésus lui montre alors d'ailleurs son cœur. Il le montre son cœur et le sien aussi, complètement unis en un seul et même cœur. Et à plusieurs reprises, elle est ravie et absorbée en la vue de la très sainte Trinité, en une façon, comme elle dit, qu'on ne peut exprimer. C'est tellement magnifique, tellement étonnant, que on se demande, elle écrit un matin qui était la deuxième fête de la Pentecôte, entendant la messe dans la chapelle des révérends pères Feuillant, ayant les yeux levés vers l'autel et en y envisageant sans dessein de petites images de séraphins de cire qui étaient attachés au bas des cierges, en un instant, mes yeux furent fermés et mon esprit élevé et absorbé en la vue de la très sainte et auguste Trinité, en une façon que je ne puis exprimer. En ce moment, toutes les puissances de mon âme furent arrêtées et souffrantes l'impression qui leur était donnée de ce sacré mystère, laquelle était sans forme ni figure, mais plus claire et intelligible que toute lumière. Elle me faisait connaître que mon âme était dans la vérité, et cette vérité me faisait voir dans un moment le divin commerce compte ensemble les trois divines personnes, l'amour du Père, lequel se contemple en soi-même engendre son Fils, ce qui a été de toute éternité et sera éternellement. L'amour mutuel du Père et du Fils engendrant le Saint-Esprit. Et dans le même attrait et la même impression, la très sainte Trinité informait mon âme de ce qui se faisait par elle-même, par communication, en la suprême hiérarchie des anges, chérubins, séraphins et trônes, en mon âme abîmée dans ce tout où elle voyait et entendait des choses inexplicables, ne pouvait produire aucun acte. Elle était absorbée dans cette immense lumière de Dieu. Et elle portait, dans cette impression, la grandeur de la majesté qui ne lui permettait pas de lui parler. Certains diront que ça n'a pas de sens. Mais on sait très bien que cette femme exceptionnelle dit ce qu'elle a ressenti et l'exprime dans la mesure de ses moyens. En 1622, les Ursulines viennent s'établir à Tours. Madame Martin apprend à les connaître, elle a 22 ans, et peu à peu, elle se sentirait à entrer dans cette congrégation. Elle doit quand même attendre 3 ans avant que les portes du couvent ne lui soient ouvertes, et elles le seront quand Don Raymond, son directeur spirituel, va approuver sa décision, et lorsque les époux Buisson, sa sœur et son beau-frère, acceptent de prendre en charge leur jeune neveu Claude Martin, qui a 12 ans, et nous verrons par la suite comment tout ça va se dérouler. Alors donc, nous étions au moment où elle prend la décision d'entrer chez les Ursulines qui viennent de s'établir à Tours en 1622. Mais c'est au bout de 3 ans seulement qu'elle pourra entrer, quand sa sœur et son beau-frère acceptent de prendre en charge leur jeune neveu, Claude Martin, le fils de Thérèse, de Marie Martin, Marie Guyard, devenue Marie Martin par son mariage, Marie de l'Incarnation. Et alors, tout semble aller pour le mieux au début. Et tout à coup, notre jeune Claude, quelques années plus tard, vient tout compliquer. Fait une fugue vers Paris. Il ne peut plus supporter ce climat de tension. Avant la séparation définitive, hein, parce qu'il sait déjà depuis plusieurs années que sa mère a l'intention d'entrer chez les Ursulines. Mais heureusement, on le retrouve au port de Blois. On le retrouve après 3 jours. Il a réintégré la maison. Et Madame Martin s'entretient assez longuement avec lui. Elle veut surtout lui faire comprendre la signification du geste qu'elle s'apprête à poser. Et elle lui explique que si elle le quitte, c'est parce qu'un appel pressant et certain de Dieu l'invite. Elle en pleure, mais elle lui prouve son amour. Et le 26 janvier 1631, Madame Martin entre chez les Ursulines. Elle a 31 ans. Claude avait 12 ans, je vous le rappelle. Les religieuses Ursulines sont tout à fait surprises de constater qu'elle sait, cette femme forte, cette femme qui a administré tout un commerce, elle sait se plier entièrement à ce régime de la maison, du couvent. Elle est entièrement soumise aux supérieurs, aux règles, aux traditions du couvent. Mais la tranquillité de la postulante, si on peut dire, ne dure pas longtemps parce que son jeune fils Claude se charge de troubler l'atmosphère du couvent par une politique de harcèlement. Parce que il est même de connivence avec certains membres de la famille Martin, la famille de son père décédé, qui n'approuve pas du tout la décision de Marie de mettre son fils chez sa sœur. Claude Martin fait des scènes à la porterie, hein? On peut lire ça dans les vies de Marie de l'Incarnation. C'est assez angoissant, hein? Alors, il fait des scènes à la grille du monastère même. Il ébranle les grilles, hein? Puis il s'introduit même, et c'est authentique, hein? Il s'introduit même un jour en sautant par-dessus la grille, jusqu'en passant par une petite fenêtre. Il se rend au réfectoire des religieuses, il se jette à genoux au pied de sa mère dans le réfectoire silencieux où une sœur fait la lecture, en criant ce cri épouvantable qui brise le cœur d'un peu tout le monde, « Rendez-moi ma maman ». Il fait même une sorte de siège du couvent en compagnie de différents gamins qui sont armés de pierres et de bâtons. Les Ursulines ne veulent pas trop se faire impressionner, mais on sait que plusieurs sont angoissés un peu. mais le cœur de Madame Martin est blessé jusqu'au fond. Elle est affectée douloureusement au plus profond, ne sait plus quoi faire. Et finalement, la solution, c'est de placer Claude comme pensionnaire chez les Jésuites. Vous direz que c'est un régime terrible. Chez les Jésuites à Rennes, en Bretagne. Mais savez-vous que j'ai connu ça, mais moi j'étais externe au collège Brébeuf quand j'y suis entré. J'y suis entré, oh, c'était en 36, 37. Eh bien, il y avait des pensionnaires qui étaient là toute l'année. Il y avait même des pensionnaires qui venaient de pays étrangers et qui ne retournaient chez eux qu'après plusieurs années. On passait les grandes vacances là. On pouvait aller les voir durant nos vacances. Ils étaient quelques-uns. Ils venaient de l'étranger. Et durant la guerre, il y avait des pensionnaires au collège qui n'étaient pas n'importe qui, les princes de Bourbon-Parme, les princes de Luxembourg, des nobles, les Aubert de Thiuzy, les Chambruns et d'autres nobles qui venaient de France et qui ont passé plusieurs années au collège, sans pour ainsi dire pouvoir en sortir. Aujourd'hui, ils règnent sur des royaumes où ils ont régné. Alors c'est la fin du harcèlement quand Claude Martin entre au couvent des Jésuites. Alors n'oublions pas que ça se faisait, qu'il y avait des pensionnaires dans les collèges qui passaient leurs années là. C'est une autre mentalité. Les familles n'étaient pas constituées comme elles le sont aujourd'hui, où les jeunes peuvent faire beaucoup plus de choses personnelles, sont beaucoup plus libres, et on ne songerait pas à leur donner un tel régime. Pourtant, beaucoup de femmes qui sont obligées de travailler ou qui préfèrent travailler mettent leurs enfants très jeunes dans des endroits où ils vont les rechercher très tard, en fin de journée, et les enfants sont éloignés de leurs parents pendant presque toute leur enfance. Ça, on accepte ça. On n'aurait pas accepté ça quand j'étais jeune. Voilà, les choses sont renversées. Alors, il faut essayer de comprendre le temps, l'époque. Hein. Ouvrons notre cœur et comprenons l'histoire telle qu'elle est. Le 25 mars 1631, Madame Martin commence son noviciat, le jour de l'Annonciation. Elle a pris le nom de Marie de l'Incarnation, qui convient très bien à ce jour où s'incarne Jésus, le Fils éternel de Dieu, dans le sein de Marie, la très sainte Vierge. Marie de l'Incarnation, c'est pour ça qu'elle porte ce nom, le 25 mars 1631. Elle prononce ses vœux de religion le 25 janvier 1633, la fête de la conversion de saint Paul. Quelques années plus tard, elle est devenue sous-maîtresse des novices, puis directrice du pensionnat, car il y a un pensionnat chez les Ursulines, ce sont des cloîtrées qui enseignent comme à Québec. Mais je ne crois pas qu'elle soit cloîtrée encore à Québec. Maintenant qu'elle a réalisé une première étape de sa vocation en devenant Ursuline, un seigneur va se charger de la conduire vers une seconde étape, celle de la fondation d'un couvent d'Ursuline au Canada. À peu près 2 ans après sa profession religieuse, elle est encore favorisée d'une communication qui lui vient de Dieu. C'est une espèce de rêve. C'est une vision étrange. Vous savez, ça existe beaucoup plus qu'on pense, ce genre de choses. En compagnie d'une jeune dame séculière, raconte-t-elle, elle s'embarque pour un grand pays. Un homme vêtu de blanc, gardien de ce pays, les accueille. La Sainte Vierge et son enfant béni sont aussi présents à ce rendez-vous mystérieux. Elle dit, « J'entendis en mon esprit que la Vierge avait un dessein, un projet pour moi. » Alors, Marie d'Incarnation parle de cette vision à un jésuite de Tours qui l'entend en confession. Et il lui dit, ce pays mystérieux pourrait peut-être être la mission du Canada. Il se laisse pas trop prendre par ces visions-là. Hein. Elle reçoit alors du père Poncet, un autre jésuite, une relation de ce qui se passe au Canada. Les relations des jésuites. J'espère que vous avez ça dans votre bibliothèque, c'est fascinant. Ce sont les textes écrits par les jésuites à cette époque, sur ce qui se passe au Canada, dans les missions, mais aussi dans le pays. Fascinant à lire. Alors, elle reçoit une relation de ce qui se passe au Canada et le père Poncet, qui le lui remet, a été le professeur du jeune Claude Martin au Collège des Jésuites. Et en lisant cette relation, elle est frappée par ce passage, où le Jésuite qui l'a écrit dit cette phrase suivante, « Ne se trouverait-il point quelque sainte âme qui voulut aller ramasser le sang du Fils de Dieu pour le salut de ces pauvres gens des contrées du Canada, c'est-à-dire des Amérindiens. » Et Marie de l'Incarnation y voit une interpellation personnelle qui lui est faite pour se rendre au Canada. Et presque en même temps, dans une autre région de la France, bien une jeune veuve, riche, Madame de la Pelletrie, prend connaissance des mêmes relations. Elle se sent également interpellée, puis elle cherche une réponse dans une prière intense. C'est une femme un peu curieuse que cette Madame de la Pelletrie. Elle est très riche, toutefois. C'est alors que le Seigneur vient lui donner cette réponse. « Je veux me servir de vous, vous irez en Canada, et vous y terminerez vos jours. » Alors, elle fait le vœu de vouer sa vie aux missions en Canada, comme on disait. Monsieur de Bernière devient son conseiller spirituel. Et en novembre 1638, des lettres sont expédiées au monastère des Ursulines de Tours, en prévision d'une future mission au Canada. Et quand le 19 février 1639, la bienheureuse Marie de l'Incarnation voit pour la première fois Madame de la Pelletrie en visite au monastère, elle reconnaît alors, dit-elle, la jeune dame séculière qui l'accompagnait dans le grand pays mystérieux du songe de tout à l'heure. Et enfin, Marie de l'Incarnation, à 39 ans, quitte le monastère de Tours avec une compagne en route pour le Canada. Son fils Claude vient la rencontrer à Orléans. Il a 20 ans. C'est une rencontre bouleversante quand on la lit. Hein. C'est bouleversant. Il dit, je vais en Canada. C'est par le commandement de Dieu que je vous quitte, mon fils. Dieu est votre Père. Et sa providence ne vous fera jamais défaut. Elle le confie donc entièrement à Dieu. Et beaucoup plus tard, quand le fils Claude sera définitivement pacifié et devenu bénédictin, elle va lui dire, il me semblait, écoutez bien ça, c'est bouleversant, c'est dans une belle lettre qu'elle lui écrit. Ils ont eu une correspondance magnifique, ces deux gros volumes que j'ai chez moi, c'est passionnant à lire. Il me semblait que mes os déboîtaient et qu'ils quittaient leur lieu pour la peine que le sentiment naturel avait de cet abandonnement. Il me semblait que mes os déboîtaient, ils se défaisaient. Et qu'ils quittaient leur lieu, qu'ils se déplaçaient en elle, pour la peine que le sentiment naturel avait de cet abandonnement. C'est le vieux style de l'époque, le vieux français. Le 4 mai 1639, à Dieppe, en France, là, 6 religieuses s'embarquent sur un petit bateau. Vous savez que les bateaux qu'ont utilisé nos ancêtres pour venir ici, c'était pas gros, hein? C'est tout petit, le petit bateau Saint-Joseph, petit navire. Alors, il y a 3 Ursulines, puis 3 hospitalières fondées par ce laïc, là, Jérôme le Royer de la Dauversière, qui est le véritable fondateur de Montréal. Alors, Madame de la Pelletrie s'embarque également avec une suivante. Elle est riche, elle a une dame de compagnie, quoi. La navigation, 3 mois, est difficile, est vraiment laborieux. Pourtant, c'est à la belle saison. Et on arrive enfin à Québec le 1er août 1639. C'est donc 3 mois moins 3 jours. Extrêmement long. Beaucoup de nos ancêtres ont failli mourir. Et on a perdu beaucoup de Français qui venaient s'établir ici sur ces bateaux. On les jetait à la mer. L'arrivée des religieuses est saluée par toute la colonie, avec chaleur et enthousiasme. Jamais, jamais on n'a vu une joie pareille, et une pareille réception depuis des années. Madame de la Pelletrie et les Ursulines sont hébergées dans une petite maison des messieurs de la compagnie. Imaginez, je vous lis le texte, c'est absolument insensé. 2 petites chambres qui servent de cuisine, de réfectoire, de retraite, de classe, de parloir et de cœur. Deux petites chambres. Imaginez. On réussit en plus de ça à loger quelques pensionnaires, entre les religieuses, de Madame de la Pelletrie, puis de sa suivante. C'est vraiment d'une audace. On lit ça, là, on se dit, mon Dieu, que nos ancêtres ont eu du courage. Hein? Marie de l'Incarnation songe de plus en plus à construire un monastère, un vrai monastère. Quand en août 1641, donc un an avant la fondation de Montréal, les fondateurs, justement, de Montréal arrivent à Québec et parmi eux se trouve Jeanne Mance. Madame de la Pelletrie s'intéresse grandement à Jeanne Mance, elle la trouve sympathique. Puis elle passe l'hiver, donc, de 1641 avec elle en sa compagnie. Au mois de mai 1642, c'est bien le... On célébrera ça le mois prochain par une belle émission, le 17 mai. La fondation de Montréal, donc en mai 1642, Madame de la Pelletrie part pour Montréal avec Jeanne Mance. Et cela pose un grave problème aux Ursulines. Comment construire un monastère si celle qui a l'argent, qui est pourvoyeuse de fonds, comme on dit, abandonne la partie? Pourtant, Marie de l'Incarnation est confiante en la Providence. Elle assume une dette de 6000 livres, c'est énorme, pour la construction du monastère, qui sera un assez grand monastère. Et le 21 novembre 1642, les religieuses et les Ursulines entrent dans leur nouvelle maison. L'installation est encore provisoire, puisque seul le toit, les murs, les planchers du bas et quelques cloisons étaient terminés. En 1643, l'année suivante, après 18 mois d'absence, Madame de la Pelletrie revient de Montréal à Québec. Elle prend part à l'œuvre des Ursulines jusqu'à sa mort. À partir de l'année suivante encore, 1644, la fondation a pris plus de stabilité. On y trouve, en plus du couvent des religieuses, un pensionnat. Oui, un pensionnat pour les fillettes françaises et les nouvelles petites canadiennes. Puis aussi, pour les jeunes indiennes, c'est assez remarquable l'éducation qu'elles vont donner à des jeunes indiennes qui entreront d'ailleurs, certaines d'entre elles, en religion et qui deviendront des religieuses admirables. Et de plus, de France, il y a de bonnes nouvelles qui sont parvenues à la fondatrice Marie de l'Incarnation. Quelle est cette grande nouvelle? Je vous l'ai déjà dit au début, vous le savez déjà. Claude Martin, son fils, est entré chez les bénédictins. Dans quelques années, soit en novembre 1649, il sera ordonné prêtre à 16, à 30 ans. Et... 16, c'est non loin d'Alençon. Ça vous dit quelque chose, Alençon, vous qui connaissez la vie de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Hein? C'est là qu'elle a grandi. Il a été ordonné prêtre à 30 ans. Et 3 ans plus tôt, en 1646, les Ursulines avaient ouvert un noviciat à Québec. Et la première profession religieuse, ça peut être intéressant pour tous ceux qui dont les ancêtres était là à peu près à ce moment-là, comme les miens, eh bien, la première religieuse, c'est Charlotte Barré, qui va prendre le nom de sœur de Saint-Ignace, dont je compte vous parler un jour, car j'ai sa vie, c'est très intéressant. Le 30 décembre 1650, un incendie va détruire entièrement ce premier couvent, hein, qui avait été édifié de peine et de misère. C'est épouvantable quand on y pense, hein? Elle écrit, Marie de l'Incarnation... Elle le répète, « Vous avez permis cela, mon céleste époux. Soyez-en bénis. » Rendre grâce à Dieu toujours et en tout lieu, c'est au début de la préface, je vous le rappelle, tous les jours à la messe, l'Église catholique entière chante, « Oui, il est digne et salutaire de te rendre grâce, toujours et en tout lieu. » C'est ce qu'elle fait. Toujours et en tout lieu, même quand ton couvent brûle. Comme Sainte Marguerite d'Youville quand son couvent, son hôpital a brûlé à Montréal, un siècle plus tard. Au printemps de 1651, on se met à reconstruire le monastère et la veille de la Pentecôte 1652, les religieuses entrent dans le nouveau monastère. Pourtant, des personnes influentes de France ne cessent d'inviter toutes ces Ursulines à retourner en France. Hein. Et elle disait, Marie de l'Incarnation, si je voyais seulement 7 ou 8 familles françaises retourner en France, je croirais commettre une certaine témérité de rester ici à Québec. Mais c'est le contraire qui s'inscrit dans les faits. La population devient de plus en plus importante. La population augmente, les récoltes sont de plus en plus abondantes. À partir de 1663, le roi de France prend le gouvernement de la Nouvelle-France. Il décide de s'en occuper de très près. C'est un siècle avant la conquête des Anglais. Le roi prend donc le gouvernement de la Nouvelle-France. En 1669, Marie de l'Incarnation écrit « Maintenant, Québec est une ville. Nous avons, pour l'ordinaire dans notre couvent, 20 à 30 pensionnaires. Les jeunes indiennes sont reçues gratuitement au pensionnat. Ce sont des Huronnes et des Algonquines. Moi, j'ai du sang Abénaki. C'est une autre tribu calme, intéressante, des Amérindiens merveilleux, que j'aime beaucoup, les Hurons, les Algonquins, les Abénakis. J'aime ces peuples. Je l'ai dans le sang. Marie de l'Incarnation se donne la peine d'apprendre les langues indiennes. Elle rédige ensuite des ouvrages pour venir en aide à celles qui devront enseigner. Elle écrit, je leur ai écrit un catéchisme Huron, 3 catéchismes algonquins, toutes les prières chrétiennes et même un dictionnaire en 7 langues. En 7 langues, C-E-2-T-E, pas 7, pas le chiffre. Ça rappelle un peu Charles de Foucault, qui a fait des dictionnaires comme ça en Touareg, dans ce siècle-ci. En 1671, au mois de novembre, Madame de la Peltrie meurt, sa grande bienfaitrice. Et dans la nuit du 15 janvier 1672, à 72 ans, c'est la fondatrice, là, qui est atteinte à son tour par la maladie. Marie de l'Incarnation est malade. Le mal est si violent qu'on juge plus prudent de lui administrer les derniers sacrements. À la fin de janvier, elle éprouve un mieux considérable, comme écrivent les textes de l'époque, un mieux considérable. Les médecins jugent qu'elle est hors de danger, mais le mal reprend au cours de la semaine sainte. Et Marie de l'Incarnation s'éteint finalement le 30 avril 1672, presque à cette heure-ci, sur l'heure de midi. Nous pouvons célébrer intérieurement le départ, l'entrée au ciel de cette grande Canadienne, de cette grande Québécoise. On a comparé d'ailleurs, je vous l'ai dit déjà, la bienheureuse Marie de l'Incarnation à Sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, la plus grande mystique de toute l'histoire du christianisme. Ces deux femmes ont ouvert des voies originales dans l'étude de la vie mystique. Leurs écrits sont des sources inépuisables pour nous édifier, pour nous régénérer. Il faut lire un peu ces choses-là, si on peut. Mais il faut également rapprocher cette bienheureuse Marie de l'Incarnation de deux saintes de France de l'époque classique. Elle fait penser à sainte Jeanne-Françoise de Chantal par l'équilibre qui commande toutes ses démarches. Elle est mariée, elle aussi. Même au sein des expériences mystiques les plus envoûtantes, elle sait traduire ce qu'elle ressent avec une simplicité, une spontanéité qui rappelle la manière de la baronne de Chantal, sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal. Elle fait songer aussi à la fameuse Madame Acari, la fondatrice du Carmel de France, dont j'espère vous parler aussi un jour, béatifiée aussi sous le nom de Marie de l'Incarnation. Ça fait deux bienheureuses, Marie de l'Incarnation. Alors, Sainte Jeanne de Chantal et les deux Marie de l'Incarnation se sont sanctifiées. Comment? En vivant les états de vie de la femme. Elles ont été des jeunes filles vertueuses. Elles ont été des épouses. Elles ont été des mères chrétiennes. Et enfin, ce qui est donné à bien peu d'entre elles ont été des religieuses et même des fondatrices. Je vous signale qu'il y a de très nombreux ouvrages sur Marie de l'Incarnation. Il y a Marie de l'Incarnation, itinéraire spirituel par André Thiry, un prêtre, avec une introduction de Don Guy Houry, qui a écrit aussi une très belle vie de Marie de l'Incarnation en deux bons gros volumes. Il y a aussi l'autobiographie de Marie de l'Incarnation, qu'elle a écrite en 1654, qui a été publiée à Solesmes en 1976 par Don Guy-Marie Houry encore. Il y a aussi toutes sortes de choses que je pourrais vous recommander, en particulier ce Marie de l'Incarnation, Tourangelle, l'apôtre du Canada, dans une collection qu'on peut trouver chez les Filles de Saint-Paul et qui ne coûte pas cher, c'est 32 pages illustrées, dans la fameuse collection « Dieu est amour ». C'est très bien fait, avec de très belles photos. Je vous signale que l'an dernier, le Centre Marie de l'Incarnation, situé à Québec, dans le Vieux-Québec, au 10 rue Donnacona, nom amérindien Donnacona, vient de rouvrir ses portes à la population après avoir subit des travaux très importants de restauration qui ont duré près d'un an. Ce centre, qui a été créé au début des années 1970, a pour mission de faire connaître aux visiteurs l'œuvre à la fois temporelle très importante et spirituelle accomplie par la bienheureuse Marie de l'Incarnation durant sa vie ici au Québec. Marie de l'Incarnation, qui est bien connue à travers le monde entier, je vous le rappelle, a été béatifié le 22 juin 1980 par Jean-Paul II.